VOA Afrique, les infos. À Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel. Bonjour. Le Nigeria a ordonné aujourd'hui le renforcement des mesures de sécurité près des marchés et lieux de prière au lendemain d'une double attaque terroriste qui a fait des dizaines de morts dans le nord-est du pays. Un kamikaze s'est fait exploser mardi dans une mosquée de Moubi dans l'état d'Adamawa, puis un second dans un marché qui se trouve à proximité au moment où les fidèles s'enfuyaient. Le bilan fourni par les autorités nigériennes fait état de 26 personnes tuées et de 56 blessées. En Centrafrique, la milice accusée d'avoir attaqué l'église Fatima à Bangui nie être impliquée dans le massacre. Rappelons qu'il y a eu au moins 20 morts et une cinquantaine de blessés suite à cette attaque imputée à une bande armée du quartier PK5. La MINUSCA, la mission de l'ONU, pointe du doigt Makhtar Al-Nimeri, alias Force, le chef de cette milice, mais ce dernier nie toute implication dans ce regain de violence dans la capitale centrafricaine. On l'écoute.
Je ne connais rien sur l'église de Fatima. Moi, je ne suis pas contre les chrétiens. Ça fait 5 ans que je suis à côté de l'église. Pourquoi je n'ai pas allé prendre l'église? Il y a des éléments qui allaient chercher son cigarette et ils pensent que c'est moi. Et la police et les gendarmes, ils ont serré sur lui. Et le monsieur même, il se trouve à l'hôpital. Et l'histoire de l'église, moi, je ne sais rien. Si quelqu'un qui a les preuves sur moi pour aller attaquer l'église, il n'a qu'à se présenter. Il y a les justices qui font son travail. Et les gens qui ont fait le rapport contre moi au niveau de la MINUSCA, je vais le planter et je vais planter le gouvernement. Est-ce qu'une fois, je suis allé chez eux demander l'argent, ou une fois, je l'ai traqué, ou une fois, j'ai tenté le chef de l'État pour une cause de coup d'État? Moi, j'ai travaillé la paix et la cohésion sociale.
Makhtar Al-Nimeri, alias Force, chef d'un groupe armé du PK5 à Bangui. La procureure générale de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, est arrivée hier à Kinshasa. Madame Bensouda doit rencontrer des membres du gouvernement et des institutions judiciaires et tenir une conférence de presse jeudi, selon le bureau de la CPI. Plusieurs demandes d'enquête sur la République démocratique du Congo ont été adressées à la Cour. RDC, toujours de nouvelles manifestations annoncées par les laïcs catholiques dans les tout prochains jours. Après 2 mois de trêve, le comité de coordination, initiateur des marches organisées depuis fin décembre 2017 contre le régime de Joseph Kabila, annonce d'autres manifestations d'envergure pour obtenir l'organisation des élections dans la transparence et dans un climat apaisé. Les détails avec Thierry Kabundi de Top Kougou FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Réunis pendant 2 jours à Kinshasa pour évaluer la situation de la République démocratique du Congo à 7 mois des élections, le comité laïque de coordination déplore l'entêtement de la Commission électorale nationale indépendante concernant l'usage de la machine à voter, un outil, je cite, « décrié sur le plan national et déconseillé par tous les pays amis, y compris celui de la provenance de cette technologie », fin de citation. Les laïcs catholiques n'ont également qu'aucune mesure de décrispation politique n'a été véritablement d'application. Aucun exilé politique n'a pu retourner au pays. Le contentieux des dédoublements des partis politiques n'a pas été vidé. Les espaces démocratiques et médiatiques toujours pas libéralisés. Les poursuites judiciaires contre les opposants n'ont pas été abandonnées, note entre autres leur communiqué, qui s'insurge par ailleurs contre la partialité de la CENI et l'instrumentalisation par le régime de Joseph Kabila de la Cour constitutionnelle, organe qui doit gérer les contentieux des candidats et du résultat de vote. Ainsi donc, le CLC décide de lever la trêve décrétée fin février et annonce le démarrage des préparatifs des actions pacifiques d'envergure de protestation et de revendication sur l'ensemble du territoire de la RDC. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Le procès en appel de 2 anciens maires de villes rwandaises condamnés en 2016 à la prison à vie pour leur participation au génocide des Tutsis dans leur village de Kabarondo en avril 1994 a débuté aujourd'hui devant les assises de Paris. Octavien Nguenzi, âgé de 60 ans, et Tito Baraira, 67 ans en juin, qui se sont succédés à la tête de leur bourg rural de l'est du Rwanda, ont toujours nié leur implication dans les massacres. Les autorités anticorruption du Malawi ont fait savoir aujourd'hui qu'elles continuent à enquêter sur l'éventuelle implication dans un vaste scandale de corruption de l'ex-présidente du pays, Joyce Banda, rentrée de 4 ans d'exil la semaine dernière. Première femme à la tête du Malawi, Mme Banda avait quitté son pays en 2014 après sa défaite à la présidentielle et alors qu'elle était mise en cause dans l'affaire dite du Cashgate. Ce scandale a éclaté en 2013 alors qu'elle était présidente. Un audit international avait alors révélé que 30 millions de dollars avaient été siphonnées des caisses du pays au profit de dizaines de fonctionnaires, hommes d'affaires et dirigeants politiques. Une attaque contre le siège de la haute commission électorale libyenne à Achnek, à Tripoli, a fait aujourd'hui des morts et des blessés. Selon des témoins, des tirs étaient toujours entendus aux abords du siège de la Achnek, d'où s'élevait une colonne de fumée noire. L'Iran a démenti aujourd'hui les accusations du Maroc, qui a annoncé la veille rompre ses relations avec Téhéran, lui reprochant d'avoir facilité une livraison d'armes au Front Polisario, mouvement indépendantiste, au Sahara occidental. Les remarques attribuées au ministre des Affaires étrangères marocain, Nasser Bourita, sur une coopération entre un diplomate iranien et le Front Polisario sont mensongères, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères iranien.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Place au dossier de ce jour avec l'immigration aux États-Unis. Après un mois de voyage à pied, en bus ou en train, la caravane de migrants venus d'Amérique centrale est arrivée au port de Tijuana, au Mexique, porte d'entrée des États-Unis. Ils sont des centaines de migrants cherchant à obtenir l'asile. Les responsables de l'immigration en Californie disent qu'il y a un trop plein de demandeurs, ce qui a amené quelques 150 personnes, dont des femmes et des enfants, à camper sur place et à faire le pied de grue à la frontière. Le point. Raissa Girondin.
Y después, la caravana, de este lado, algunos miembros de la caravana...
Fatigués et émus, plus de 150 migrants ont terminé leur traversée de l'Amérique centrale à la frontière avec les États-Unis. Beaucoup disent avoir fui la violence et une vie de misère. L'un d'entre eux a fui le Honduras.
Je suis heureux d'avoir cette opportunité, mais j'ai doute de ce qui va advenir.
Les lois américaines permettent à des individus de demander l'asile s'ils peuvent démontrer de manière crédible qu'ils fuient la persécution. Après la longue marche jusqu'à la frontière américaine, c'est la longue attente qui continue. Les responsables de l'immigration assurent que la porte d'entrée est fermée après avoir atteint sa capacité d'accueil de 300 personnes. Nicole Ramos, avocat de l'immigration, reste très sceptique. Ils affirment qu'ils vont prendre sur les gens lorsqu'ils auront les capacités d'accueil. Mais comment est-ce possible que le gouvernement américain, le plus puissant et l'un des plus riches au monde, n'ait pas les capacités d'accueillir 200 réfugiés, des gens vulnérables? Je n'y crois pas.
Ne pouvant entrer sur le territoire américain, la plupart des migrants passent la nuit à la Belle Étoile avec leurs sacs et baluchons.
Lundi, le président Trump a dit qu'il surveille de près leur caravane. Il a aussi tiré à boulet rouge sur la politique dite « arrêter puis relâcher » qui permet de relâcher les migrants après une détention prolongée. Le président Donald Trump est en désaccord total avec une telle politique.
S'ils touchent
à notre propriété, s'ils touchent à notre pays, vous les arrêtez puis vous les relâchez dans la nature, ce n'est pas acceptable. Nous avons besoin de changer la loi.
Les personnes qui demandent l'asile doivent respecter la loi. C'est ce que souhaitent ceux chargés de surveiller quelques 3000 km de frontière entre les États-Unis et le Mexique, dont Jorge Rivera, un garde-frontière.
Nous comprenons qu'ils ont un rêve à réaliser et qu'ils ont un besoin. Il y a des lois dans ce pays et nous devons les respecter. Nous attendons cela de quiconque vient dans notre pays et nous sommes là pour faire respecter la loi.
Parmi tous ces candidats à l'immigration, près de la moitié sont des mineurs accompagnés par leurs parents. Ils ne pensent pas tous obtenir l'asile. Louis Pavon, venu du Honduras, a préféré rester à Mexico pendant que sa femme et sa fille entament le processus de demande d'asile.
Au Honduras, beaucoup ont déjà été tués. Mais là-bas, je n'aurais jamais pu revoir ma famille. Au moins ici, de l'autre côté de la frontière, j'ai espoir de pouvoir la revoir un jour.
Réaliser le rêve américain est comme un parcours du combattant, mais l'espoir est encore permis.
Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi est arrivé aujourd'hui à Pyongyang, une première depuis 11 ans. À l'heure où Pékin et Pyongyang renforcent leurs liens après l'historique sommet intercoréen, cette visite de deux jours intervient sur fond de frénésie diplomatique sur la péninsule à quelques semaines d'une rencontre historique entre le leader nord-coréen Kim Jong-un et le président américain Donald Trump. La Chine entend ne pas être marginalisée par la spectaculaire détente en cours et selon de nombreux analystes, elle est inquiète qu'un accord Pyongyang-Washington se fasse à ses dépens. Jean-Roger Billon à ce micro. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes. Ce sera en compagnie de Henri Francisque. Pour ma part, je vous dis bon après-midi.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Moi, je viens de...